Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Alexandre Lautrette, qui est PUPH de réanimation et qui travaille dans le service de réanimation médicale polyvalente de Clermont-Ferrand. Alors Alexandre, tu es spécialisé dans l'insuffisance rénale aiguë du patient de réanimation et c'est à ce titre que nous avons souhaité t'inviter pour discuter de la question de l'anticoagulation au cours des techniques d'épuration extra-rénale. Et donc la première question, quelles sont les techniques d'anticoagulation en épuration extra-rénale intermittente ?
On peut se poser déjà comme première question, pourquoi une anticoagulation ? Eh bien parce qu'une épuration extra-rénale, c'est une circulation extracorporelle, certes biocompatible, mais cette circulation extracorporelle active le système de coagulation, ce qui peut aboutir à un dysfonctionnement partiel ou total de la membrane de dialyse ou des hémofiltres. Dans le pire des cas, la membrane est coagulée, entraînant un arrêt prématuré de la séance, donc la perte de matériel et un surcroît de travail infirmier, voire même une perte sanguine si la restitution est impossible. Donc une anticoagulation est indispensable. La plus utilisée en technique intermittente, que ce soit en réanimation ou en centre de dialyse, est l'héparine. Le plus souvent, c'est une injection d'HBPM en début de séance sans nécessité d'en refaire. La séance peut durer sans difficulté 4 à 6 heures. Le principal inconvénient de cette technique très simple et peu coûteuse est que l'anticoagulation est systémique. Certes, elle ne dure que quelques heures, mais elle peut être formellement contre-indiquée chez les patients qui ont un saignement actif ou à haut risque hémorragique. Les TIH sont bien entendu une autre contre-indication, mais du fait de leur rareté, l'impact est négligeable dans une population de réanimation. Chez les patients sous anticoagulation efficace par héparine en continu pour une autre indication comme l'embolie pulmonaire ou l'ACFA, on continuera cette anticoagulation en continuant durant toute la séance, en faisant parfois un bolus en début de séance ou bien en mettant l'héparine sur la branche artérielle du circuit de dialyse. Pour les séances de durée plus prolongée, supérieure à 8 heures, on peut soit faire deux injections d'HBPM, la seconde injection étant faite entre 4 et 6 heures après le début de la séance. Soit utiliser de l'héparine non fractionnée à dose anticoagulante en continu durant toute la durée de la séance. Des essais d'anticoagulation régionale de la membrane par le couple héparine-protamine ont été jusqu'à présent très décevants. Il n'y a pas actuellement de technique d'anticoagulation régionale recommandée pour les techniques intermittentes. Chez les patients qui ont une contre-indication à l'héparine et à qui on veut réaliser une hémodialyse intermittente, il y a toujours la possibilité de ne pas faire d'anticoagulation. Les bolus ou flashs de physio n'ont pas démontré d'efficacité sur la durée de vie de la membrane. Les résultats des essais sur des membranes avec héparine cotée sont contradictoires et ne permettent pas de faire des recommandations. Si on n'utilise pas d'anticoagulation en hémodialyse intermittente, il faut essayer d'avoir un débit sanguin élevé d'au moins 250 ml par minute, donc une bonne voie d'abord, et ne pas coupler la perte de poids avec la dialyse.
Donc on vient de voir pour l'anticoagulation de l'épuration extra-rénale intermittente, donc l'hémodialyse. Quelles sont les techniques d'anticoagulation pour l'épuration extra-rénale continue ?
Eh bien pour l'épuration extra-rénale continue, on retrouve les mêmes techniques d'anticoagulation, notamment par de l'héparine, avec principalement l'HNF administré en continu à dose efficace. Mais là aussi, le principal inconvénient est l'administration systémique de l'héparine qui peut favoriser des accidents hémorragiques. Alors, à la différence de l'hémodialyse intermittente, depuis quelques années, une technique d'anticoagulation régionale avec du citrate a été mise au point et présente de nombreux avantages. Elle consiste à perfuser sur la ligne artérielle du citrate qui chélate le calcium. Rappelons que le calcium est indispensable à la coagulation. Ainsi, au niveau du filtre, le taux de calcium est très bas et aucune coagulation n'est possible. Sur le retour veineux, il y a une substitution en calcium afin de corriger l'hypocalcémie engendrée par le citrate. Ainsi, il y a bien une anticoagulation au niveau du filtre, mais pas en systémique. Vous imaginez bien que cette technique est recommandée chez tous les patients à haut risque de saignement. De plus, il a été montré que l'anticoagulation régionale au citrate est plus efficace que l'anticoagulation par héparine. En effet, les durées de vie des filtres sont prolongées le patient a une quantité d'épuration plus importante pour une même période de traitement et on consomme moins de matériel. L'anticoagulation au citrate est celle recommandée actuellement en première intention dans les techniques continues à cause de son efficacité et de la diminution de son risque hémorragique. Les procédures pour l'utilisation de cette technique d'anticoagulation sont maintenant bien standardisées et faciles d'accès. Si on fait de la technique continue, il faut savoir utiliser la technique d'anticoagulation au citrate. Enfin, depuis la maîtrise de la technique d'anticoagulation régionale par citrate, il n'y a plus d'intérêt à privilégier la prédilution pour prévenir les coagulations de filtre.
Mais ça veut dire qu'il faut utiliser le citrate pour tout le monde alors ?
Alors je répondrai oui, presque pour tout le monde. La principale contre-indication reste les patients en insuffisance hépatocellulaire. En effet, le citrate est métabolisé par le foie en bicarbonate. Si le foie ne remplit pas cette fonction, il y a une accumulation de citrate dans le sang. Cela provoque un syndrome citrate qui se définit par une acidose métabolique majeure à trou anionique augmenté, une augmentation du calcium total et une baisse du calcium ionisé, ceci conduisant à un état de choc. D'autres complications du citrate peuvent apparaître, comme l'alcalose métabolique, due à un apport excessif de citrate, mais qui est bien métabolisé par le foie. Une autre complication rare mais grave est un défaut d'apport en calcium substitutif, souvent à cause d'un problème technique au niveau de la voie de perfusion. Ceci entraîne une hypocalcémie grave avec retentissement cardiaque. En résumé, le citrate est une technique qui fonctionne bien, mais nécessite un apprentissage qui se fait de plus en plus facilement actuellement. Le citrate requiert aussi une surveillance biologique rapprochée, notamment pour les troubles acido-basiques et la calcémie. Le plus simple pour cette surveillance biologique est d'avoir un automate de mesure dans l'unité de réanimation dans le cadre d'une biologie délocalisée.
Mais comme tu disais, manifestement, la calcémie totale et la calcémie ionisée, qui est celle biologiquement active, peut être perturbée par la présence du citrate. Cela sous-entend qu'il faut uniquement se focaliser et s'intéresser à la calcémie ionisée ou c'est une surveillance de la calcémie totale que tu recommandes ?
Alors, je recommande en fait la surveillance des deux calcémies, calcémie totale et calcémie ionisée. La calcémie ionisée est indispensable en cas de recherche pour rechercher une hypocalcémie, notamment à cause d'un surdosage en citrate. Et l'hypocalcémie ionisée peut entraîner un trouble du rythme cardiaque mortel. Mais aussi la surveillance de la calcémie totale avec le rapport calcémie totale sur calcémie ionisée permet de détecter les premiers signes de syndrome citrate.
Merci beaucoup pour cette précision importante. Peux-tu nous indiquer trois articles qui te semblent incontournables à connaître sur le sujet ?
Alors, on peut se référer aux recommandations internationales CADIGO sur la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë qui sont parues en mars 2012 et qui sont très complètes et qui restent toujours d'actualité pour une très grande majorité des sujets. Plus récemment, la SRLF a édité avec la SFAR et la Société de Néphrologie des RFE sur l'épuration extrarénale qui sont parus en 2014. Et si vous voulez tout comprendre sur le citrate, il y a cette jolie revue de Fiacadori dans CJASN parue aussi en 2014.
Merci beaucoup Alexandre. Et comme d'habitude, notre question bonus, que dirais-tu à un étudiant qui voudrait choisir la filière MIR pour le conforter dans le choix de cette belle spécialité ?
Eh bien, je dirais que la réanimation permet d'exercer une médecine très polyvalente. Sur une visite d'une dizaine de patients, on va discuter de dysfonctions hépatiques, rénales, cardiaques, respiratoires, neurologiques ou bien de bilans immunologiques, de vascularites comme d'antibiogrammes. La réanimation aborde tous les aspects de la médecine en se focalisant bien entendu sur l'aspect aigu, mais aussi en essayant de prévoir l'avenir, car de plus en plus, la prévention des séquelles devient une priorité dans notre prise en charge en réanimation. Et puis la réanimation, c'est aussi une médecine riche en émotions, parfois positives, parfois décevantes, mais très souvent, ce sont des émotions intenses. On communique peu avec les patients, c'est vrai, mais on communique beaucoup avec les autres spécialistes et surtout avec les familles des patients. Comme en chirurgie, on a le résultat de nos efforts rapidement, en quelques heures ou quelques jours. Bref, la réanimation, c'est une discipline intellectuelle, gestuelle et riche en émotions.